Nous entamons une nouvelle période liturgique. Aujourd'hui, nous entrons dans cette période qu'on appelle le triode. Les plus anciens, vous connaissez par cœur ce que c'est, l'explication n'est pas pour vous, c'est plutôt pour les plus jeunes, pas forcément jeunes en âge, mais jeunes dans la pratique liturgique orthodoxe. Le triode, on l'appelle comme ça parce que pendant l'office du matin, au mieux de chanter 9 odes, on dit 9 odes, mais en fait, il n'y en a que 8. Pendant cette période, jusqu'à Pâques, on ne chante que 3 odes, donc tri-odes. Et ça détermine tout le cycle dans lequel nous entrons à partir d'aujourd'hui. Le triode se compose d'abord de 3 semaines, 3 dimanches, de préparation avant le carême qui lui-même est la préparation à Pâques. Et on avance progressivement dans le mystère pascal. Et puisque l'homme et la femme, peut-être, sont corps et âme, non seulement nous entrons avec notre âme dans le mystère de la mort-résurrection, mais aussi notre corps y participe. Voilà pourquoi il y a ce long carême pendant lequel nous jeûnons un peu plus que d'habitude, nous veillons un peu plus que d'habitude et nous prions un peu plus que d'habitude. De manière à ce que, même dans notre corps, avec des méthanies, avec une fatigue, tout notre être participe à notre conversion, qui n'est pas qu'intérieure, mais qui est aussi extérieure. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La semaine qui vient, c'est une semaine sans jeûne. On n'a rien à faire, on n'a rien à présenter. Vous pouvez manger n'importe quoi, n'importe quel jour. On a le droit de ne pas s'empiffrer. On a le droit d'avoir quand même une certaine assaise. On a le droit de faire quand même attention au royaume des cieux, à la présence du royaume des cieux parmi nous, à la grâce de Dieu en nous. Mais avant de commencer le carême proprement dit, pendant cette première semaine du triode, l'Église nous fait prendre des forces à nos corps en nous permettant de manger sans règle de jeûne les lundis, mercredis et vendredis. Il n'empêche que celui qui, par assaise personnelle, veut ne pas manger de certaines choses, il est évidemment libre. Il n'y a pas obligation de manger. Je ne plaisante pas seulement. Il y en a qui voient dans le typicon, dans les règles de liturgiques, ils voient que jour sans jeûne, et ils croient que c'est une obligation de manger. Pas une obligation, il y en a qui font. Donc, nous commençons ce triode par la parabole du pharisien et du publicain. Je ne suis pas trompé. Hein. Deux attitudes qui, lorsqu'on les lit comme ça, nous semblent banales, parce que c'est évident. Le pharisien orgueilleux dans le fond du temple, en se vantant et tout ça, c'est évident que c'est condamnable. Alors que le publicain, pauvre pécheur, nous est tout de suite sympathique parce qu'on voit son humilité. Mais il faut penser, contrairement à ce que je vais dire après, il faut penser à soi. C'est-à-dire, penser à soi, c'est pas d'une manière égoïste. Il faut voir en quoi on est concerné. Or, en nous-mêmes, il y a du pharisien et du publicain. Quelles sont ces deux attitudes? En quoi l'attitude du pharisien est-elle condamnable? D'abord, il se compare. D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il est satisfait de lui-même. Il vient au temple, mais pour se justifier, pour se féliciter. Il se donne des tapes dans le dos en disant « C'est bien, mon petit gars, tu donnes la dîme, tu jeûnes, tu peux être content de toi. » Et ça, ça peut être, d'une manière ou d'une autre, notre attitude à tous. Où on est fier de notre foi, on est fier de la manière dont on vit. On est fier du carême qu'on va faire ou qu'on va essayer de faire et de beaucoup d'autres choses. On est fier, mais on se compare aux incroyants, aux païens qui n'ont pas la même grâce, comme si ça venait de nous. C'est un jugement qui en fait, un jugement sur les autres qui en fait nous condamne à nous-mêmes. Donc celui-là n'a pas de, dans l'évangile, le pharisien n'a pas de relation avec Dieu. Il est coupé de Dieu, il est coupé des autres puisqu'il juge celui qui est en face et même tous les autres hommes. Je te remercie Seigneur de ne pas être comme les autres hommes. Et il n'a pas de relation avec Dieu, il est centré sur lui-même. Alors que le publicain, pécheur, j'allais dire par nature, pécheur par son métier même. Tu parles collecteur d'impôts. J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous qui sont pour contribution directe. Le publicain a conscience que quelquefois, peut-être, qu'il détourne un petit peu quelques pièces par-ci, par-là. À son profit plutôt qu'au profit de l'État, ou d'autres choses qu'on peut même pas imaginer, mais qui revient à la conscience de chacun. En tout cas, il se sent indigne. Et lui, il a une relation qu'il sent, d'une certaine manière, négativement, il se sent loin de Dieu. Il se sent indigne. Et ça, parce qu'il sent quelque chose de la grandeur de Dieu. Et à côté de cette grandeur de Dieu, qu'est-ce qu'il est? Et celui-là, l'évangile, le Christ dans l'évangile nous dit qu'il repart justifié. Justifié, non pas qu'il reçoive une révélation intérieure en disant c'est bien, à ton tour, c'est bien d'agir comme tu le fais, de penser comme tu le fais. La justification, c'est le Seigneur qui rend les personnes justes selon la justice divine. Et la justice divine, monsieur de la Palisse vous dirait que ce n'est pas la justice humaine, en sens que ça n'a rien à voir avec l'équité. La justice divine, c'est de donner à profusion. C'est cette justice qui consiste à donner à l'ouvrier de la 11e heure le même salaire qu'à celui de la première heure, qui a pourtant travaillé toute la journée. Une justice gratuite. Et c'est ainsi que le publicain repart justifié, il repart avec la grâce de Dieu. Qu'il ne le sent pas forcément, l'évangile ne dit pas qu'en sortant du temple, il est pris des forces ou je ne sais quoi. Non, il reste dans son humble condition. Mais de fait, il est justifié. Parce que lui, par son humilité, a créé, avec la grâce de Dieu, cette relation avec Dieu. Et pour nous, le carême va consister à apprendre à avoir une attitude semblable à celle du publicain, une attitude à abandonner l'attitude orgueilleuse du pharisien, pour acquérir cette attitude humble devant Dieu, de celui qui se sent pécheur, qui se sent loin de Dieu, et qui ne se justifie pas, qui attend tout de Dieu, qui attend même son, non seulement son salut, mais qui attend sa conversion de Dieu même. Et tout notre carême doit être un apprentissage de cette attitude. Et comment peut-on apprendre l'humilité, car il faut, c'est pas, ça vient de Dieu, bien sûr. C'est un, l'humilité est un peu un mystère, comme Dieu lui-même, qui est un mystère. Comment l'humilité ne consiste pas à se dire, à se dire, moi je suis le moins bon de tous, ou le plus mauvais de tous, ou... Il peut y avoir un orgueil aussi à se dire comme ça. Mais l'humilité consiste à se présenter naturellement devant les autres et devant Dieu comme on est soi-même, sans artifice. Pour apprendre l'humilité, la première chose est justement de ne juger personne, d'accepter les uns et les autres comme ils sont, sans jugement sur les personnes. On peut juger des faits, des actes, je veux dire. Si Denis est en train de récupérer l'argenterie et part avec, il me dit, c'est condamnable. Mais c'est pas lui qui est condamnable, c'est son acte. L'humilité s'apprend de fait en renonçant, en prenant l'habitude de renoncer à sa volonté propre, à la sienne. C'est-à-dire à toujours préférer l'intérêt de Dieu, ou si on peut l'appeler comme ça, ou l'intérêt de l'autre à son intérêt propre. Je suis en train de lorgner sur cette part de gâteau que j'ai envie de manger, mais Denis est en train de maintenant allonger le bras pour le prendre avant moi. Ben, plutôt que dire, ben mince alors, j'aurais bien voulu le prendre. Hein. Je devrais me réjouir de ce qu'il l'a pris, de ce qu'il l'a pris avant moi. C'est un exemple idiot. D'abord, il n'est pas prêt à faire ça. Vous comprenez, l'humilité, c'est ce renoncement en tout à soi. Et peu à peu, la grâce de l'Esprit Saint vient en la personne qui s'humilie et crée en lui une attitude nouvelle qui est l'attitude humble de celui qui attend tout de Dieu et qui attend son salut de Dieu. Sans se justifier en disant, moi, avec ce que je fais, avec les 5 minutes de prière que je fais tous les jours, j'ai quand même le droit d'être sauvé. Moi, avec le jeûne que je fais à pas manger de fromage une fois par semaine, je peux quand même être sauvé. Je caricature, c'est évident. Et pour vous faire comprendre. Mais même si je jeûne beaucoup, malgré tout, Dieu ne m'est pas redevable. Je dois encore attendre la grâce gratuite de Dieu, sachant que mon jeûne ou ma prière ne sont qu'une participation, selon mes forces, à la grâce de Dieu, que Dieu m'envoie pour que je puisse justement jeûner au nom de l'Église ou prier au nom de l'Église. C'est, si vous voulez vivre ce carême et avoir la joie vraiment de la résurrection, c'est-à-dire la joie d'une nouvelle vie, c'est par cet effort de renoncement à soi, cet effort d'humilité, qu'on peut se mettre dans les dispositions, ça ne nous justifie pas, mais on se met dans les dispositions pour recevoir la grâce de Dieu. Il faut encore recevoir la grâce de Dieu, qui ne manque pas de nous envoyer, mais qu'il convient d'attendre, de demander, de recevoir, et après de mettre en application. et essayez d'être devenir dans vos églises respectives, ou ici si vous voulez, pour suivre de dimanche en dimanche l'évolution du carême. Et pendant la semaine, rares sont ceux qui ont la possibilité de venir à tous les offices tous les jours, c'est évident. Mais lisez tout au long de la semaine, relisez l'évangile du dimanche qui précède, pour vous mettre dans cet esprit-là. Et n'en faites pas une analyse logique, mais en lisant l'évangile, ayez conscience que c'est la parole que Dieu vous adresse à vous personnellement, à chacun d'entre nous. Ce n'est pas global, c'est une parole de Dieu, une parole de conversion, une descente de l'Esprit-Saint sur chacun de nous. Et si on y fait attention, si on est attentif tout au long de la semaine, il y a quelque chose qui, sans que l'on y fasse attention, pénètre en nous et fait de nous quelque chose de nouveau, nous permet de progresser, nous permet de mûrir. Et vous verrez, enfin vous le savez pour la plupart, vous le savez, tous les dimanches de carême ont un thème particulier et qui est toujours remarquable. Si pendant les 80 ans de votre vie, pendant 80 fois, vous lisez pendant toute la semaine ces passages de l'Évangile, il y a forcément quelque chose qui change en vous.